Je crois que l'idée d'enseignement explicite, elle découle de vos propos et de ce que nous ont appris notamment les enquêtes internationales, hein. Il n'y a rien de mieux que des enquêtes internationales pour nous renseigner sur nous-mêmes, et sur des choses que nous ne voulons pas toujours regarder, en face, même si, ces enquêtes ne sont pas impeccables, peuvent être critiquées, voilà, vous entendez mieux. Si ces enquêtes ne sont pas au-dessus de toute critique, néanmoins, année après année, ou 3 années après 3 années, en ce qui concerne PISA, elles nous apprennent des choses sur la façon dont nous accueillons les élèves, et sur ce phénomène un peu, enfin, qu'on a du mal à regarder dans les yeux, qui est que l'école française tend plutôt à rajouter des inégalités par rapport à celles que les élèves ont apportées en entrant à l'école avec eux. Mon propos voulait aborder quelques points. Le premier point, vendre la mèche, qui essaie d'expliciter pour le coup la nécessité du recours à des pédagogies plus explicites. L'idée que néanmoins cette idée apparemment simple, évidemment, ne l'est pas, sinon ça saurait et nous aurions les résultats. Vous proposez quelque chose qui est travaillé dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, qui est le fait que autant il est facile d'expliciter des sous-entendus, autant il est difficile de travailler sur des malentendus, ce qui relève de notre ordre, et ce que j'essaierai d'exposer brièvement. Et enfin, me semble-t-il, une distinction importante qui est à faire, que nous avons apprise les didacticiens d'ailleurs, c'est le fait qu'une chose est le temps didactique, autre chose le temps des apprentissages, et que ce qu'on peut expliciter assez parfaitement d'un point de vue didactique est beaucoup plus complexe lorsqu'on s'intéresse aux apprentissages, j'allais dire, réels des élèves. Voilà. Donc l'expression « vendre la mèche », je l'emprunte directement au Bourdieu-Passeron, qui voyait en 1964, ce qui n'est pas tout jeune, faisait une critique extrêmement acérée de ces phénomènes de connivence, et notamment de connivence culturelle qui pouvaient exister dans le système éducatif français. Alors eux s'intéressaient à l'époque aux étudiants. On ne peut pas reprocher à Bourdieu de ne pas aller faire des observations en classe maternelle, mais la question ne se posait pas dans les termes aussi vifs qu'elle se pose aujourd'hui. Et si elle se pose d'ailleurs, c'est en partie à cause de leurs travaux. Donc là, ils nous décrivent un univers dans lequel les enseignants du supérieur en particulier, je pense qu'ils pensent aussi et surtout à ceux de classe préparatoire peut-être, puisque c'est l'univers qui lui était familier, se comportent avec les étudiants selon des codes qui sont assez hermétiques et refusent par exemple de parler de méthodes, de parler de règles de travail intellectuel, pensant que la seule vertu de l'exemple et de la démonstration en acte suffit. On pourra appartenir originairement à la corporation philosophique. Il y a souvent dans ces disciplines l'idée que c'est en voyant faire les grands maîtres, hein, que l'on s'imprègne de leur manière de faire, ou en lisant les grands textes, et que tout travail méthodologique, tout travail sur les présupposés de la manière dont on fait, dont on élabore les concepts, etc., est un travail de deuxième zone, enfin, et qui d'une certaine manière gâche le métier, parce qu'à force de se centrer sur les techniques, on oublie la visée principale. Je voudrais proposer quelques arguments qui me semblent dissiper un peu cette facilité apparente qu'il y aurait à dire ben, il n'y a qu'à expliciter, il n'y a qu'à vendre la mèche, dire tout ce qu'on ne dit pas, mais qui est néanmoins présupposé par ce qu'on fait, il n'y a qu'à le dire. Alors, je crois qu'il y a plusieurs arguments, c'est sans doute pas exhaustif. Le premier, c'est que moi, je pense qu'on ne peut pas tout expliciter. Voilà quelle est ma position. La première raison est une raison de caractère logique, c'est que si vous explicitez quelque chose, vous allez le faire avec des mots qu'il va falloir expliciter à leur tour. Et c'est une régression à l'infini. Donc, l'idée d'une explicitation totale, d'un point de vue strictement logique, paraît évidemment peu consistante. Le deuxième aspect, qui est un aspect qui est plutôt du côté des didacticiens, je pense ici aux travaux de Gérard Sansevi, qui vous dit, notamment lorsque vous travaillez en dévolution de problèmes, il est évidemment hors de question de donner la réponse aux élèves, sinon vous tuez le moteur même de la recherche. Et donc l'enseignement, pour partie en tout cas, il consiste dans des moments dans lesquels les élèves doivent trouver des choses qu'ils ne savent pas, en s'appuyant sur des connaissances qu'ils n'ont pas forcément, ou en allant arranger ensemble des connaissances qu'ils ont déjà. Si vous pratiquez l'effet topaz, hein, les moutons s'éteignent dans le pré, évidemment, l'élève fait l'exercice, mais la partie n'a pas lieu. et il n'en empochera pas le gain, ce qui est quand même le but du jeu. Le but n'étant pas que la séance de dictée se passe convenablement, mais que les élèves en apprennent quelque chose. Donc cette thèse proprio motu, c'est-à-dire le fait qu'il faut de son propre mouvement trouver un certain nombre de choses, paraît assez incompatible avec l'idée d'une explicitation totale qui, encore une fois, tuerait la recherche elle-même. Troisième argument, je crois qu'à l'époque, qui est un argument de caractère sociologique, c'est que la réception de notre enseignement par les élèves n'est pas une réception passive. La sociologie de la réception, dans les œuvres d'art, etc., vaut aussi pour l'enseignement. Les élèves ne sont pas des réceptacles passifs. Et on voit bien que même si les consignes en particulier sont extrêmement explicites pour eux, ça n'est pas pour ça qu'ils vont les comprendre et surtout les appliquer. Quelqu'un comme Anne Barrère et moi-même avons un peu travaillé sur les écrits d'élèves et nous disons que les élèves se livrent souvent à des renormalisations des consignes dans un sens qui leur paraît plus intéressant, plus favorable, que ce soit le nombre de pages, la manière de faire des citations, etc. etc. Vous avez beau être extrêmement clair sur ce que vous dites et ce que vous attendez, le fait qu'on écrit, on rédige l'introduction qu'une fois que la dissertation est faite, évidemment les élèves vous disent oui, ça on sait, mais nous on ne peut pas, ça nous inquiète, il faut absolument une introduction, voilà. Etc. On pourrait énumérer beaucoup, beaucoup de techniques de travail intellectuel scolaire que les élèves connaissent parfaitement, mais qu'ils n'appliquent pas pour des raisons qui sont des raisons extra-intellectuelles, et dans lesquelles il faut en effet rentrer, mais dont la résolution ne peut pas relever de l'explicitation. En tout cas, de l'explicitation à ce niveau. Un quatrième argument que je vois est un argument de caractère historique. À l'époque où Bourdieu, Passeron et écrivent, nous ne sommes pas du tout dans l'école massifiée. Nous sommes peut-être dans des enseignants qui sont dans la connivence, puisque les publics sont triés. Je crois qu'aujourd'hui, dans les REP, vous savez comme moi que les enseignants explicitent, passent leur vie à expliciter de manière très laborieuse des choses. Ils ne sont pas du tout dans ce déni d'explicitation, bien au contraire. La formation en IEFM, en SP, insiste énormément sur ces histoires d'explicitation. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas là des enseignants surplombants, superbes et pas acquis aux idées de la démocratisation. Il y a des enseignants extrêmement engagés, tout à fait acquis à l'idée de la démocratisation et qui, pour autant, lorsqu'ils explicitent, se rendent compte que ça ne suffit pas pour que les consignes soient comprises et que le travail se fasse selon ce qui est selon les attentes. Voilà. Donc, me semble-t-il, le processus de l'explicitation est plus complexe que ce que son approche un peu superficielle pourrait laisser attendre, parce que malgré tout ça, pourtant la terre tourne et les élèves ne comprennent pas. Enfin, pas tous. On peut essayer d'expliciter, mais au fond, quand on explicite, et je crois que Sylvie détaillera ça bien mieux que moi, les explicitations peuvent avoir lieu à plusieurs niveaux. On peut expliciter les finalités. C'est-à-dire, si on donne aux élèves que des moyens de travail sans leur dire pourquoi ils travaillent, la question de l'institutionnalisation, par exemple, qui clôt des discussions en classe, est là pour dire l'objet de savoir c'était ça aujourd'hui. Oui, bien évidemment, il y a là quelque chose qui est l'explicitation des fins, de pourquoi on est là. Il n'est pas certain que cette explicitation des fins rencontre les attentes des élèves. On le verra plus loin, mais les élèves de milieu populaire en particulier peuvent avoir une vision de l'école qui est, comme l'ont montré les bilans de savoir Charlotte Bautier-Rochex il y a un certain nombre d'années, avoir un bon métier, ce qui n'est pas forcément les fins de l'école, même si l'école n'est pas ennemie du fait que les élèves aient un bon métier, ce n'est pas exactement la même finalité. De la même manière, expliciter les supports de l'étude, si les élèves ont un sens de ce qu'il faut faire, mais qu'en même temps on ne leur donne pas les moyens, en particulier d'être autonomes, il y a là quelque chose dont nous savons bien que c'est insuffisant. Ça fait l'objet d'une explicitation, mais encore faut-il être capable de combiner les deux, et donc il faudrait arriver à expliciter les deux explicitations. Et je crois qu'il y a un niveau plus profond qui, pour nous, est le plus préoccupant, c'est l'explicitation de la forme scolaire, c'est-à-dire l'explicitation de qu'est-ce que c'est qu'apprendre à l'école. Étant entendu qu'apprendre à l'école n'est pas une chose banale, et qu'apprendre à l'école est une chose qui s'inscrit en faux contre toutes sortes d'autres apprentissages qu'on fait dans la vie qui n'obéissent pas aux mêmes règles, et qui s'inscrit d'autant plus en faux que les manières d'apprendre dans les autres milieux que l'école est différente de celles qu'on a à l'école. Ce que les enseignants ont tendance, moi le premier, à tenir pour acquis, puisqu'ils sont toujours bien travaillés à l'école, c'est banal, et ils pensent que ces procédures sont les mêmes pour tout le monde, universelles, éternelles, etc. Donc je passe, le texte vous le trouverez, en essayant de centrer maintenant mon propos sur la différence entre sous-entendu et malentendu. Dans l'image de vendre la mèche, je pense que nous sommes dans les sous-entendus. C'est-à-dire, j'attends de vous telle chose, mais je ne vous le dis pas. Tel savoir est nécessaire pour réaliser telle tâche, mais je ne vous le dis pas. On va procéder sur le mode de la pédagogie par devinette, mais je pourrais vous donner le résultat, mais c'est vous qui allez le trouver. Donc, dans tous ces cas de figure, l'enseignant sait ce qu'il pourrait expliciter, mais il ne le fait pas pour des visées pédagogiques qui sont sans doute tout à fait honorables. Mais sous-entendu, s'il le voulait, il pourrait le faire. Je crois que là où les choses sont plus compliquées, c'est que là où même il le voudrait, il ne peut pas le faire, parce que les explicites sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus puissants. Alors, dans le jargon épouvantable de notre labo, nous parlons de malentendus socio-cognitifs. Jusque-là, vous trouviez que mes propos étaient à peu près fréquentables. Maintenant, vous avez commencé à vous méfier, vous avez raison. Socio-cognitifs, parce que pour qu'il y ait malentendu, il faut qu'il y ait plusieurs logiques à l'œuvre. Lorsque nous nous malentendons, c'est parce que la personne A se mésentend ou se malentend, je ne sais comment il faut dire, avec la personne B, parce que la personne A est dans une logique parfaitement claire et cohérente pour elle, la personne B est dans une autre logique, elle parle d'un objet commun, mais appréhendé de manière différente. La difficulté est d'accéder évidemment à la logique de l'autre et surtout de ne pas les confondre, parce qu'en l'occurrence, et c'est une des caractéristiques de l'école, l'école est un objet social. Objet social parce qu'elle a la tâche absolument fondamentale de perpétuer les sociétés, de transmettre les héritages culturels, de les faire fructifier, ce qui n'est pas rien. Sans école, d'une manière ou d'une autre, les sociétés auraient un visage tout à fait différent, même se demander si elles continueraient. Et cognitif, pourquoi ? Parce qu'il y a des manières d'apprendre, qui sont des manières, encore une fois, particulières à l'école. Hein. Les travaux de Guy Vincent, ici, ont depuis un moment attiré notre attention sur cette notion de forme scolaire. Et que ces logiques ne sont pas exactement les mêmes. C'est ce que dit la fin de ce bitec. À l'école, on apprend pour le social, mais pas comme dans le social. Un des paradoxes de l'école, et surtout de l'école massifiée et allongée, c'est qu'on enferme pendant une bonne vingtaine d'années une génération pour la préparer à la vie. Il y a quelque chose qui, vu de l'extérieur, peut paraître tout à fait invraisemblable, mais qui néanmoins est parfaitement fondé. La vie est quelque chose d'un peu complexe, et donc on estime aujourd'hui qu'il faut une préparation. Donc on va vous protéger. Hein, je dis parfois, les épreuves à l'école sont des épreuves papier-crayon. Vous faites des erreurs dans des calculs de trajectoire de train, ça ne fait pas des catastrophes. Vous vous trompez dans les calculs de robinet, vous n'inondez pas l'appartement. Donc tout ça est tout à fait confortable, sauf que c'est un monde qui est totalement artificiel. Avec des savoirs qui ne sont pas les vrais savoirs, qui ont été didactisés, etc., etc. Et tout ce travail de transformation, qui nous paraît naturel, est un travail qui n'est pas du tout évident pour les élèves. Et cela est d'autant moins évident qu'ils sont aussi dans des logiques sociales, qui ne sont pas ces logiques cognitives, et que souvent, ces deux logiques vont entrer en conflagration. Je prends trois exemples. Le premier, c'est... Je l'emprunte à Bernard Lahire, hein, qui a beaucoup travaillé sur la question des écrits d'élèves, en particulier des écrits d'élèves de milieux populaires. Il dit, voilà, quand on demande à des élèves, pour se rapprocher de leur expérience, de décrire, par exemple, une journée de vacances, on va avoir des écrits très, très déstructurés, qui signifient beaucoup pour les élèves, mais qui sont pleins de tout ce que l'écrit scolaire récuse, c'est-à-dire la connivence, l'implicite, la contextualisation versus la décontextualisation. Pas de concordance des temps, un aplatissement des choses les unes sur les autres. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de morale tirée à la fin. Voilà. Les élèves sont convaincus, ceux-ci notamment, enfin, d'avoir validé les consignes, d'avoir répondu. J'ai raconté une journée de mes vacances. On va leur dire non, mais ça ne va pas du tout. Parce que ce qu'il s'agissait de raconter, c'était sur le mode de la rédaction, qui est un genre, voilà, apparu historiquement, etc., etc., qui correspond de très loin au récit spontané que les élèves peuvent avoir entre pairs. Vous voyez, ça c'est une question très compliquée. Faut-il se rapprocher des élèves ou au contraire s'en éloigner? Si on s'en éloigne, eh bien ils mordent pas dans l'école. Et si on leur donne ce qu'ils savent déjà, c'est plus l'école non plus. Donc, il y a toute cette marge compliquée qui pose la question de l'explicitation, à mon avis, d'un point de vue. Je prends un autre exemple, qui est le fait qu'à l'école, on travaille sur des objets culturels, et notamment des objets qui sont scolarisés, hein, ce qu'on appelle, dans notre jargon parfois, les objets du monde, mais qui ont été retravaillés par l'école. Anecdote biographique, Ma fille elle devait être à l'époque en sixième, je crois que c'était elle avait un devoir de technologie, à l'issue duquel elle devait trouver le prix du kilowattheure d'électricité. Avec sa copine, elles étaient un peu fatiguées, elles ont dit on va faire un truc, elles ont appelé EDF au téléphone, elles ont eu le dernier prix du kilowattheure, triomphalement elles l'ont mis sur leur cahier. Leur désappointement était très grand le lendemain quand on leur a dit non, c'est pas le prix du kilowattheure. Elles m'ont dit si madame, je vous assure, c'est le vrai prix du kilowattheure. Et non, chacun avait raison, sauf que ce qui était le but de l'exercice, vous l'avez bien compris, c'était pas le vrai prix du vrai kilowattheure de la vraie EDF de l'époque, c'était l'exercice qui permettait de dire que ce malentendu qui existait là, évidemment après les parents enseignants, ils font tout ce qu'il faut derrière pour faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on fait, à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue intellectuel et déontologique, mais pour beaucoup d'élèves, ce divorce entre le monde réel et le monde scolaire est tout à fait puissant. Et savoir quels sont les objets culturels travaillés à l'école, c'est loin d'être évident pour eux. Il faut entrer dans la machine. Troisième point, qui pour nous fait partie de ce qu'on appelle les registres de l'apprentissage, c'est l'aspect identitaire. C'est que quand vous êtes à l'école, non seulement vous travaillez dans des logiques cognitives qui sont particulières, non seulement vous travaillez sur des objets culturels particuliers qui ont été souvent secondarisés par rapport au monde réel, vous travaillez pas sur l'escargot mais sur le gastéropode, voilà. Lorsque vous travaillez, vous engagez aussi un certain type de personne qui n'est plus la personne de l'enfant, qui n'est plus le jeune, qui est l'élève, le lycéen, voire l'étudiant. Et cette manière d'être, soit à l'école, est une manière tout à fait particulière, qui fait par exemple que vous allez dire ce que vous pensez, bien sûr, mais pas sur le mode de l'opinion. Alors ça, c'est drôlement compliqué pour les élèves. Lorsque les élèves vous demandent, quand vous avez une discipline à dissertation, est-ce qu'il faut dire « je » ou « tu » Est-ce qu'il veut dire « je », pardon, ou « nous » voilà, est-ce qu'il faut parler à la première, à la deuxième personne, à la troisième, ou à je ne sais laquelle, s'il en reste, c'est extrêmement compliqué. Parce que à la fois, si vous dites aux élèves qu'il faut dire « je » comme Descartes, mais que le jeu de Descartes, c'est pas René, c'en est un autre, c'est un peu compliqué, et il faut absolument arriver à rentrer dans cette manière de faire, qui, pour bien des élèves, peut apparaître comme une espèce de récusation de leur identité, puisqu'ils ont des idées, ils ne peuvent pas les exprimer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Donc là, de mon point de vue, nous sommes à l'étage des malentendus dans lesquels les logiques sociales et cognitives se télescopent et pour lesquels il semble très difficile, ça n'est pas du tout mission impossible, mais en tout cas plus compliqué de remédier qu'en disant « mais je vous rappelle les consignes, c'était celles-ci et vous les avez entendues, on va les écrire quatre fois ». Le dernier point, voilà, eh bien, c'est que ce qui est sans doute confondu dans une vision un peu superficielle de l'explicitation, c'est le fait qu'on a tendance à confondre le temps didactique et le temps des apprentissages. Et le grand choc des frais émoulus de l'IFM ou de l'ESPE, c'est de dire mais on nous a appris à faire des séquences didactiques magnifiques, et puis quand on arrive avec, les élèves n'enlèvent pas leur bonnet, leur moufle, comment on fait? Oui, là, en effet, ça devient compliqué, d'autant que le temps avance et qu'on n'a plus le temps de faire ce qui était prévu, parce que la vraie réalité des vrais élèves, c'est une temporalité qui n'est pas celle de l'enchaînement bien huilé des concepts, c'est une temporalité différente, avec des élèves qui ne sont pas là où vous croyez qu'ils étaient au moment où vous les prenez. Et donc, l'idée que le rappel des consignes pourrait suffire, c'est le présupposé que l'action pédagogique, c'est une action unilatérale. Et que, comme vous disiez tout à l'heure, on est dans l'enseignement-apprentissage. Je crois que c'est ça le problème, c'est que les deux séquences ne peuvent pas être dissociées. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que, de mon point de vue, une pédagogie de l'explicitation que j'appellerais superficielle présuppose que les opérations cognitives sont simultanées, qu'elles sont contemporaines. Or, les élèves arrivent dans la classe avec bien des choses dans leur tête. L'idée qu'ils ont des lacunes est une idée qui nous fascine, mais nous ne voyons pas le trop-plein qu'ils ont à la place des lacunes, et qui est sans doute bien plus problématique pour l'enseignement que s'ils étaient des cires vierges, comme on l'imaginait dans les visions très transmissives, depuis Durkheim et un certain nombre d'autres, de la socialisation et de l'éducation. Donc, mon point de vue, c'est que il y a des processus et des arrière-plans à expliciter, et que du coup, cette explicitation, si on veut bien rentrer dans la dialectique enseignement-apprentissage, elle est à deux niveaux. Il faut expliciter pour les élèves, mais sans doute aussi s'expliciter à soi-même, et ce n'est pas forcément le plus facile pour les enseignants de s'expliciter à eux-mêmes ce que c'est que le métier d'enseignant et ce qu'ils ont à faire. Le premier point que je soulève, mais tout ça est loin d'être exhaustif, c'est que il y a une continuité des processus d'apprentissage, et que, je dirais malheureusement, la division du travail éducatif que nous connaissons dans notre système et qui est plutôt en voie d'augmentation qu'en voie de diminution, d'autant qu'elle croît dans les pays anglo-saxons, comme nous le montrent nos collègues canadiens, la division du travail éducatif a tendance à morceler le processus. On a tendance à penser qu'une chose est ce qui se fait dans la classe, une chose est ce qui se fait de devoir, une chose est ce qui se fait dans les travaux divers et variés que les élèves peuvent être amenés à faire avec des personnels divers et variés. Et que, pour avoir un peu travaillé sur les questions d'aide au devoir, on voit que les gens qui essaient d'aider au devoir sont assez démunis, ils ne connaissent pas le cours, ils ne connaissent pas l'enseignant, il n'y a pas les cahiers, il n'y a pas les mêmes livres, il y a des fiches qui circulent, mais qu'y a-t-il sur elles, etc. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un problème très complexe d'équipe pédagogique, en particulier dans le second degré, pour arriver à restituer cette chaîne des apprentissages. C'est plus facile dans le premier degré. Le deuxième aspect, qui est aussi une chose très complexe, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de pédagogie différenciée. Les enseignants disent oui, ils causent toujours, mais bon, on n'y arrive pas, évidemment, c'est impossible. La question étant que si l'on essaie de faire de la différenciation à l'issue du processus, les choses sont déjà largement entamées. La grande difficulté, pour parler dans les termes de Sabine Kahn, c'est que des élèves exposés à des mêmes savoirs voient ces savoirs se diffracter dans un nombre de prismes presque aussi abondant que le nombre d'élèves, même s'il y a aussi des aires de famille dans les manières de ne pas comprendre, et que la grande difficulté, c'est d'arriver à comprendre, à expliciter pourquoi les élèves comprennent d'une certaine manière ce qui devrait s'adresser de façon unique à l'ensemble. Donc là, ben, c'est des questions de rapport au savoir, hein, qui sont, je crois, largement engagées. Conclusion très rapide, c'est que, au fond, la tension entre l'explicite et l'implicite, je crois que c'est une tension qui remonte à la nuit de la pédagogie. Lorsque Platon, dans le Ménon en particulier, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut chercher une chose qu'on ne connaît pas. Et ça pourrait déboucher sur une aporie, parce que si on la connaît pas, ben comment sait-on qu'on la cherche? Et quand on va la trouver, comment saura-t-on que c'était ce qu'on cherchait, puisqu'on ne savait pas ce que c'était qu'on cherchait? Bon, alors après, la théorie des idées innées est là, et aide bien les choses, puis on l'a toujours eu en soi, il suffit d'accoucher, etc. Nous ne sommes plus exactement sur les mêmes paradigmes, mais le problème demeure entier. Le problème demeure tout à fait entier. Je crois que l'explicite et l'implicite sont le recto et verso d'une seule et même réalité, qui a sans doute des moments dans lesquels l'enseignement est explicite en tant que tel et d'autres dans lesquels il est implicite, sinon vous tuez les germes du savoir. Et là, on peut déboucher éventuellement sur les questions d'interdisciplinarité, parce que je crois que ça a quelque chose à voir. Pour moi, la vraie question n'est pas celle-ci. C'est la question de ces explicites qui relèvent des malentendus. Alors oui, j'ai listé quelques expressions qui montrent bien que c'est ça qui est en tension permanente, les notions de curriculum caché, d'occultation des savoirs, de pédagogie invisible, Bernstein, des savoirs transparents, Clermont-Golinas, des pédagogies explicites. Voilà. C'est toutes ces variations sur le montrer caché sont, je crois, des traces de ce que l'enseignement repose forcément sur ces deux dimensions. Et c'est comme le recto verso, même si vous aviez des ciseaux extrêmement fins, que vous coupiez la feuille dans l'épaisseur, vous généreriez encore un recto inverso. Donc c'est un travail infini, je ne conseille pas de vous y engager. Il faut assumer cette tension, la difficulté dans l'enseignement étant de trouver des moments dans lesquels on sait qu'on est vraiment dans l'explicite et d'autres dans lesquels on n'en est pas. Le problème réel me paraît plutôt du second et du troisième ordre que l'on va voir, c'est le fait de recenser les préalables, qu'est-ce qui est requis pour réaliser telle activité, et ça, c'était une tâche d'une autre nature, de l'expliciter évidemment dans le temps et dans l'espace, et aussi de remédier après l'erreur, puisque nous savons au moins depuis Bachelard que nous n'apprenons que de nos erreurs, mais il n'est pas sûr du tout que l'organisation, la continuité pédagogique dans notre système soit de nature à le faire. Hein. Le nombre d'enseignants qui disent ne pas corriger les devoirs à la maison parce qu'ils n'ont pas le temps et qui ne sont pas sûrs que ce sont les élèves qui l'ont fait, c'est quelque chose qui frappe quand vous enquêtez sur le sujet. On peut donc se demander comment est-ce qu'on peut arriver à déplier toute cette chaîne-là si elle est tronçonnée. Mais il me semble que, et là je m'appuie sur ce texte de Bernstein, que je trouve intéressant, parce que ce qu'il nous dit, c'est explicite, implicite, se rapporte à la visibilité du point de vue de l'apprenant, de l'intention du transmetteur quant à ce qui doit être acquis. En ce qui concerne la pédagogie explicite, l'intention est très visible, alors qu'en ce qui concerne la pédagogie implicite, l'intention est du point de vue de l'apprenant invisible. Ça, c'est assez facile. Et Bernstein est quelqu'un qui a théorisé la question des pédagogies invisibles, dont il nous a montré qu'elles apparaissent dans les catégories moyennes supérieures pour se diffuser dans l'ensemble du corps social et fortement dans le modèle éducatif. Vous voulez obtenir quelque chose d'un élève, mais vous ne lui dites pas. C'est comme nous, lorsque nous voulons obtenir de nos enfants d'enseignants qu'ils fassent un métier de telle sorte, mais que surtout, il ne faut pas faire de pression sur eux et qu'il faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes, mais que si on fait trop de pression, et que, etc., et que si on n'en fait pas assez, ils ne vont pas le faire. Donc, toutes ces contorsions que vous connaissez bien en tant qu'éducateur et parent, elles sont liées aux pédagogies invisibles, qui, au lieu de dire « tu seras ceci ou cela », c'est « tu seras ce que tu veux être, mais à condition que ça ressemble à ce que nous voulons que ça soit ». C'est la grande difficulté de l'invisibilité. Mais elle est aujourd'hui, je crois, à l'œuvre dans la pédagogie. Et ça, si vous voulez, il suffirait de... On peut le dire là où ça devient plus compliqué. Je trouve, et à mon avis, le terme de tacite que propose Bernstein me paraît être susceptible de dépasser l'opposition implicite-explicite, parce que la pédagogie tacite est une relation pédagogique dans laquelle l'initiation, la modification, le développement ou le changement du savoir, de la conduite ou de la pratique se produisent alors qu'aucun membre du groupe n'en prend conscience. Je crois que c'est ça qui est bien plus problématique, c'est que ni les enseignants ni les enseignés ne sont conscients des implicites qui structurent la situation, qui, de mon point de vue, peuvent être appréhendés par la question des malentendus. Nous disons toujours dans notre vocabulaire un peu sauvage qu'il y a des régimes mineurs et majeurs de l'apprentissage. Ça veut dire que, au fond, tout le cursus d'un élève, s'il le comprend bien, c'est qu'il va passer dans le curriculum français, mais aussi dans le curriculum occidentaux, de contenus de savoir qui sont des contenus très spécifiques vers des contenus qui sont des contenus de plus en plus génériques. Les contrats didactiques, pour piller très rapidement ce concept aux didacticiens, le contrat didactique, il est sans arrêt rompu. C'est sa nature de contrat, c'est d'évoluer. Pour dire les choses très simplement, à un moment donné, en mathématiques, je vais peut-être me faire reprendre par mes amis didacticiens, à un moment donné, on vous demande de montrer les choses, à un moment donné, vous les démontrez. Voilà. Il y a là un saut de vocabulaire, mais qui en même temps est un saut conceptuel qui me paraît considérable. Et comme on le voit dans les travaux de Stéphane Bonnery, par exemple, une des grandes difficultés des élèves, c'est de ne pas comprendre que le contrat didactique a changé. C'est de croire que, alors qu'il donnait satisfaction à l'école primaire en se comportant loyalement vis-à-vis du système, en exécutant chaque soir ses devoirs, etc., ça ne suffit plus quand on arrive à tel niveau du collège et qu'on ne comprend plus pourquoi et que ça veut dire que les gens sont méchants, voire racistes, hein, et tous les malentendus, pour le coup, dans lesquels la dimension sociale prend le pas. Cette grande difficulté à comprendre que ce qui a été le régime majeur d'un moment devient le régime mineur de l'étape suivante, hein, selon un processus dialectique absolument permanent. Et je crois la grande difficulté à expliciter le fait que le premier et le second degré soient coupés ou étant encore des cultures différentes me paraît peser fortement dans cette histoire de progression. On peut espérer, et je terminerai là-dessus, on peut espérer que la programmation par cycle permettra de regarder ce temps des apprentissages, qu'il s'agisse du temps des apprentissages des élèves avec l'idée qu'on ne voit pas pourquoi un élève devrait exactement en même temps qu'un autre comprendre la même chose que l'autre à l'intérieur du cycle, et aider aussi à comprendre ce que sont les progressions de savoir à l'intérieur de ce cycle, qui, y compris, peuvent, comme c'est le cas aujourd'hui dans le nouveau programme, enjambent les institutions, on va dire, primaires et secondaires, et devraient normalement amener à la création des collectifs susceptibles de retracer la continuité des savoirs et l'épaisseur du temps d'apprentissage. Voilà, mon point de vue, c'est celui-ci, c'est que c'est tout ce tacite sur lequel il faut travailler et qui conduit à expliciter simultanément, évidemment pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, des difficultés qu'ils rencontrent et dont ils ignorent souvent l'origine, en mésestimant la difficulté qui est celle des élèves à comprendre les logiques scolaires et d'un point de vue synchronique, je dirais, mais aussi d'un point de vue diachronique, dans leur évolution vers quelque chose qui est toujours plus de l'ordre de la secondarisation.